Année 2008, guérison planétaire. Mars 2008, la mort au service de l'amour. Seconde partie.
Tout ce travail de l'âme dans la forme est un long travail de guérison planétaire auquel nous ne sommes pas seuls à participer. C'est aussi donc les animaux, les végétaux, les minéraux, les devas, tout ce qui vit finalement sur cette planète Terre, à un moment donné, eh bien, redonne, restitue son travail. C'est ce qu'on appelle la mort, pour que tout le monde en profite et que tout cela avance. C'est pour ça que la mort est un grand processus de progrès et de guérison. Alors, pour mieux comprendre ça, on pourrait essayer de voir où se situe le problème pour essayer de réconcilier peut-être un petit peu les deux visions. Je vous ai montré un petit peu tous les paradoxes. Vu du point de vue de l'âme, du point de vue de la personnalité, c'est pas franchement la même chose. Comment est-ce qu'on peut essayer de réconcilier ça? Bon. Alors reprenons ce que je disais tout à l'heure. L'âme crée des formes. Comme je vous l'ai dit, c'est des formes de vie. Bon, donc, au sein de cette grande vie une. Maintenant, venons-en à ce que nous sommes nous et comment nous travaillons ça. Eh bien, l'âme crée donc ce qu'on appelle un humain, et à partir de là, donc un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Ces trois corps sont ce qu'on appelle les trois formes. Souvent, quand on parle de formes, on parle des formes physiques. On oublie que les formes émotionnelles, les idéaux, les désirs, ce sont aussi des formes. On oublie que les idées, les pensées, ce sont aussi des formes pensées. Donc les trois mondes de formes, c'est mental, émotionnel et physique. Bien. Donc nous vivons au sein de ces trois formes, et nous n'arrêtons pas de créer formellement, nous agissons, nous faisons toutes sortes de choses, une profession, émotionnellement, nous aspirons, nous aimons, nous détestons, nous créons des idéaux, nous rejoignons, nous avons des idées, nous n'arrêtons pas de faire des formes pensées au quotidien, bref, nous sommes des vrais créateurs, nous aussi, finalement, de formes. Malheureusement, c'est pas l'âme qui souvent la plus les crée, mais c'est nous, après en tant que forme, qui recréons cela. Et donc, à travers toutes ces expériences, il est évident que progressivement, eh bien, on apprend. Le problème, d'où vient-il? Le problème, c'est que nous nous identifions complètement à ces formes. On oublie totalement qu'on est âme. On ne le sait peut-être même pas. Donc on est totalement identifié à la forme. Je suis la forme. Voilà. Je suis mon corps mental. Je suis mon émotionnel et je suis mon physique. Je suis mes idées. Et si vous n'aimez pas mes idées, eh bien, ça m'embête. Je suis mes émotions, je suis mon affect. Et je m'identifie tellement à mes émotions que quand on ne m'aime plus, mais je n'ai plus qu'à me suicider. Tellement je suis mon affectif. Et puis je suis mon corps physique. Ça, c'est bien moi. Je le sens. Donc nous sommes totalement identifiés au monde des formes. Nous sommes des formes vivant dans un monde de formes entourées de tas de formes qui vous demandent « Alors, t'es en forme ?» Ouais, en pleine forme. Voilà, et c'est là qu'est l'erreur. C'est que finalement, vous voyez, on n'arrête pas finalement d'être complètement identifié à ce processus-là. Alors que pas du tout, nous sommes âmes fondamentalement. Mais ça, on l'oublie complètement. Mais donc, à partir de là, mais ça a des conséquences énormes. Si je suis identifié à ce monde de formes, j'ai pas du tout la vision de l'âme concernant la mort. J'ai au contraire la vision des formes, c'est-à-dire un instinct de conservation extraordinairement développé. Et je cherche avant tout à ce que les choses restent en l'état. Moi, la mort, ça me chante pas du tout. Et tous les mots qui vont avec, rupture, cessation, casser, lâcher prise, arrêt, fin, mort, vraiment des mots que j'aime pas du tout entendre. Moi, j'aimerais que les choses continuent tout le temps. Surtout quand on est bien, vous voyez, on a envie que ça continue. Et non pas du tout, donc, ces termes-là. Voilà pourquoi on a une certaine tendance, voyez-vous, à rester complètement dans ce qu'on crée en permanence, à s'identifier à ça et à chercher à ralentir tout ce qui pourrait être justement de l'ordre d'une rupture, d'une cessation, d'une fin. On aimerait vivre éternellement, on aimerait peut-être pas quand même, mais plus longtemps en tout cas, tant qu'on est bien, comme on dit souvent, tant que je suis en forme, tant que je suis en bonne santé, allez, il faudrait que les choses puissent durer le plus longtemps possible. Parce que nous sommes complètement identifiés à cette histoire de forme. Du coup, on ne sait pas mourir. Du coup, on a peur de la mort. Et la peur de la mort, elle ne vient que de ça. Uniquement du fait d'être identifié aux formes. Alors souvent, les gens disent « Oh, mais moi, j'ai pas peur de ma mort. Moi, j'ai peur de souffrir. Ouais, mais de la mort, j'ai pas peur. Mais j'ai peur de la mort des autres. » Ben, c'est la même chose. c'est finalement, c'est que je suis identifié à la forme de l'autre et pas à ce qu'il est du point de vue de l'âme. Si je suis identifié à l'âme de l'autre, j'ai forcément une autre relation avec l'autre. Et au moment de la mort, mais je suis l'autre. Et je continue de percevoir l'autre. Et il y a un rapport continu avec l'autre. Et moi, je ne perçois pas du tout la rupture. Mais au contraire, une continuité. Simplement une transformation dans la relation. Mais une continuité. Mais si je suis dans la forme, j'ai l'impression de tout perdre. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe. Et donc, c'est fini. Terminé. Voilà. Et tout finit comme ça. Oui, c'est uniquement cette histoire d'identification qui compte. C'est là que justement on voit comment nous pouvons percevoir un autre regard sur la mort. À quoi sommes-nous identifiés? Qui est-ce que je suis moi? Alors vous savez, qu'est-ce que c'est que les formes que nous utilisons au quotidien? Je parlais du mental, de l'émotionnel et du physique. Ben, c'est toutes les formes, par exemple notre famille. Notre famille, c'est une forme, celle que d'où nous venons et celle que nous avons fondée. Notre travail, c'est une forme. Mon couple, c'est une forme. Les loisirs, c'est une forme. Tout ce que je pense, c'est une forme. Tout ce en quoi je crois, c'est une forme. Tout ça, ce sont des formes. Et elles sont toutes utiles puisque finalement, à travers ça, l'âme apprend, l'âme travaille, l'âme relationne avec les autres. Il se passe plein de choses à travers cette histoire-là. Et donc, tout ça, c'est remarquablement utile. À condition qu'effectivement, la vie puisse toujours passer à travers la forme. Le secret, voyez-vous, c'est cela. Le secret de ce qu'on appelle donc la perpétuation d'une vie dans une forme, c'est tant que l'âme y trouve un intérêt, tant que la vie passe à travers cette forme, tant que quelque chose se travaille, tant que quelque chose existe, tant que ça avance, tant que ça bouge, alors c'est super, ça vit. Au moment où plus rien ne se passe, au moment où la forme est devenue tellement lourde, tellement bloquée, tellement pleine d'habitudes, ou bien tout simplement la personne qui est dans la forme s'occupe plus du tout de ce processus de vie ou d'âme, ben à ce moment-là, c'est mort. C'est quelque chose qu'il faut terminer. Mais regardez comme souvent on ne sait pas. Regardez combien souvent des personnes ont eu des relations géniales avec d'autres. Et puis à un moment donné, bah, on fait un bout de chemin différent, puis on n'a plus rien à se dire, alors on se voit quand même de temps en temps. Ça va toi? Ouais. Toi, bah, ça va, toujours pareil? Pas bah, toujours pareil, bah, c'est bien. Bah, continue, ouais. Dis donc, chérie, il faut qu'on invite les Dupont à dîner. Pff, encore? D'accord, encore, ça fait 6 mois, c'est une heure pas vue, mais non. Oh, la barbe. Bah oui, bah, faut le faire quand même. Bah, pourquoi faut le faire? Vous voyez, toutes ces obligations. Alors qu'on n'a plus rien à se dire, bah, on arrête. Dans un boulot, souvent dans un boulot, j'ai beaucoup progressé pendant un temps, puis maintenant, je tourne en rond, j'ai l'impression que ça avance plus, maintenant que je ne m'y retrouve plus dans ce boulot. Eh bien, fais autre chose. À mon âge, tu n'y penses pas, non, mais attends, vu le marché du travail, non, je continue. Dans ce pays, dans cette région, où j'étais si bien, où j'ai beaucoup appris de choses, maintenant j'en ai marre, ça me sort par les yeux, eh bien, déménage. Vous voyez, la mort, elle est partout. La mort, c'est pas simplement ce qu'on appelle des choses vivantes, c'est tout ce que nous vivons, c'est toutes les formes que nous utilisons. L'âme utilise toutes ces formes pour progresser, à condition qu'elles soient vivantes. À nous de voir si c'est mort ou si c'est vivant. Sur chaque forme, il devrait y avoir une date limite de consommation. Voilà. Boulot pendant tant de temps. Voilà. Tout simplement parce que c'est comme un produit frais. Un produit frais, si vous le consommez dans le temps, ça vous nourrit. Si vous dépassez de beaucoup la date, ça vous empoisonne. Et bien les formes, c'est exactement pareil. La famille, si vous, la famille dans laquelle vous êtes né, eh bien ça vous nourrit pendant de longues années. Mais à un moment donné, si vous continuez façon Tanguy à vous laisser nourrir par la famille, ça vous empoisonne. Vous pouvez, on ne peut plus. Ou bien si vous ne changez pas. Alors, je ne suis pas en train de dire, virez vos parents. Changez la relation. Quand je parle d'une forme, ce n'est pas les gens qu'il faut changer. C'est la relation qu'il faut changer. Quand je vois toujours des gens qui ont 40 ans ou 50 ans, qui disent toujours, bonjour papa, bonjour maman. Oui papa, je dis bien, oui j'ai bien maman. Oh, jusqu'à quel âge on appelle papa et maman? Il serait peut-être temps de les appeler par leur prénom et d'établir une relation d'adulte à adulte, de changer cette forme-là. Sinon, vous avez toujours, je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle, vous allez chez votre maman et « Bon, c'est bien, t'as dit bonjour à la concierge, en passant, bon, sois prudent quand tu repars, mets bien les patins, puis, bon, ça s'est bien passé. Non, fais attention, ça. Dis donc, où est-ce que t'as acheté ça, c'est pas terrible, tu me changes. » Il faut changer cette relation-là, sinon ça empoisonne complètement la vie. Dans un couple, tiens, un exemple au hasard. Des gens se mettent en couple quand ils ont, je sais pas moi, on va dire 24-25 ans. Bon, on a un certain niveau de conscience à 24-25 ans, du coup, on vit le couple d'une certaine manière. Mais si à un moment donné, on ne change pas de forme, je suis pas en train de... Non, je précise, parce que il y en a qui vont sortir de là et dire « Chérie, je demande le divorce. Patrice, à la conférence, il a dit qu'il fallait changer de forme. » Donc, hop. Non. Au contraire. Pour éviter, justement, des séparations, mais il faudrait changer la forme de la relation. Attends. Se dire à un moment donné, mais on a complètement changé. On n'est plus comme on avait 20 ans ou même 30 ans. Là, on en a 40 ou on en a 45, on en a 50. Et donc, forcément, notre conscience est différente. Notre relation doit être différente. Donc, la forme doit être complètement différente. Mais vous voyez, souvent, on n'y pense pas. Et donc, finalement, on se retrouve avec des vieilles formes usées qui ne correspondent plus. Et puis, plus personne s'y retrouve. On n'ose pas changer la forme. Donc, ça coince tout le monde. Puis, on dit, écoute, quand on est vraiment brisés tous les deux, au revoir, salut, on va... Mais quel dommage! Il aurait fallu à temps refaire la forme. Mais c'est comme si on ne réalisait pas combien chaque état de conscience nécessitait une forme nouvelle. Chaque état d'âme réclame une forme nouvelle. Et donc c'est tout le temps. Surtout si vous évoluez vite. À une époque, on évoluait très 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 lentement en conscience de masse. Grosso modo, tel que vous étiez à 17 ans, vous retrouvez à 77 ans. Donc, ça allait, on pouvait se marier jeune. Mais maintenant qu'on évolue de plus en plus vite, qu'on est de plus en plus dans une société, dans une civilisation qui va vite, notre conscience, naturellement, c'est elle qui entraîne cette vitesse. Il faut sans arrêt revoir les formes. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on travaille ensemble? Pourquoi on est ensemble, etc. Et à tous les niveaux. Sinon, à chaque fois, il y a mort. Mais vraiment, si vous voulez, on le regrette parce que on aurait pu peut-être passer à autre chose. Il y aurait mort et renaissance. Donc là, peut-être il y a séparation. Dommage. C'est pour ça que vous voyez, c'est vraiment important d'arriver à concevoir ce rapport entre la conscience et les formes et de voir qu'on ne doit pas faire durer les choses au-delà d'un certain temps. Mais, petits exercices au quotidien. Apprenez à mourir. Alors, très sympathique. Vous vivez quelque chose. Vous vivez une soirée, par exemple, super avec des personnes. C'est très bien. Et à un moment donné, vous sentez que, waouh, c'est plein. Top. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à partir du moment où c'est plein? Vous voyez, le cercle remplit complètement le carré. Eh bien, au revoir. Salut. Mais qu'est-ce qu'on va faire bêtement? Imaginez que ça arrive à 10 heures. On ne peut pas partir à 10 heures quand même. C'est dommage parce que le moment était plein. Ouais, il faudrait partir. Écoute, il est que 10 heures, donc on va peut-être se faire suer encore ensemble pendant une heure, là. Tiens, j'en prendrais bien une petite goutte, moi. On va continuer la relation. Alors que c'est dommage, parce qu'il n'y a plus rien à se dire, il n'y a plus rien à faire. C'est fait. On ne sait pas mourir au quotidien. Le nombre de personnes qui ne voient pas quand quelque chose est plein et que ça gâcherait, que c'est terminé. Donc, il faut partir. Savoir partir. Savoir quitter, savoir terminer. Oh. Au quotidien, le nombre de personnes qui ne savent pas faire ça, c'est une horreur. Et qui traînent. Ou au téléphone. Ça y est, ils vous ont dit ce que là, vous avez dit tout. Ça y est, c'est fini. Bon, allez, ça va. Alors, ça va bien. Alors, à part ça, rien. Bon, non, mais si, tout bon. Tout bon, et raccroche. Mais non, on peut traîner. Parce que on établit des liens comme ça, puis on est bien, puis on se sent bien. Alors on a c'est affreux. Oui, ça c'est le besoin. On crée un attachement, et on n'arrive pas à rompre. Vous voyez, le savoir mourir au quotidien, c'est savoir partir à temps. C'est savoir quitter à temps. C'est savoir finir un rendez-vous à temps. C'est savoir finir de parler à temps. C'est sentir quand ça y est, c'est plein, il faut mieux se quitter sur un un plein que sur un... À quelle heure ils partent ? Ouais. C'est ça, c'est donner la prépondérance à la vie sur la forme. C'est ça qui est intéressant, vous voyez, ce sont des petites choses comme ça du quotidien, c'est à chaque fois qu'on donne la prépondérance sur ce qui est vivant, et non pas sur la forme extérieure. Ça, c'est vraiment des petites perceptions qu'on peut avoir, vous voyez, comme ça. Alors, voilà pourquoi, vous voyez, le problème de la mort, c'est toute cette identification aux formes, qui fait qu'ensuite, bien évidemment, on leur donne du pouvoir à ces formes. On est persuadé que c'est là que se situent toutes les solutions du monde. Donc si on est malade, c'est évidemment qu'une forme qui va pouvoir m'en soigner. C'est pas... Alors, t'es sûr, c'est pas un peu psychologique ? Pas du tout, rien du tout. Non, c'est purement formel. Et par conséquent, à partir de là, tiens, prends ça, ça va suffire. On est sûr que telle recette politique ou que telle recette économique va pouvoir nous sortir de telle ou telle difficulté. C'est que finalement, on a l'impression que finalement, c'est le monde des formes dans lequel nous nous trouvons qui pose des problèmes et c'est dans ce monde qu'on doit trouver des solutions. Mais alors, non. Comme ça, on ne change rien, car malheureusement, les formes n'ont pas de pouvoir. Elles n'ont pas le pouvoir ni de nous engloutir, parce que la conscience est toujours là, ni même d'apporter des solutions. Elles peuvent nous aider dans certains cas, comme on l'a vu la fois dernière. Vous vous souvenez, dans la purification, tout le processus qui consistait à céder au niveau des formes pour que le courant puisse descendre. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut venir d'en bas, mais c'est certainement pas là qu'est la solution. C'est simplement un intermédiaire, c'est une aide, mais pas la solution vraie, qui est simplement dans le monde de l'âme. Alors on pourrait se dire, la solution dans tout ça, c'est faut abandonner les formes. Lâchons les formes, ne nous occupons plus des formes, et vivons uniquement dans le monde de l'âme. Comme ça, on n'aura plus peur du tout de la mort, et on ne sera plus encombré de toutes ces formes. Non, c'est pas possible non plus. Ça, c'est ce qu'ont tenté de faire les mystiques. Les mystiques, donc à une époque, et c'était juste pour leur époque, mettaient de côté les formes et essayaient de dire il faut vraiment s'extirper de là et être totalement dans la vie de l'âme. Soyons totalement amour, soyons lumière. Voilà, ça c'est super. Les formes, on s'en occupe pas. Oui, mais comment voulez-vous être dans l'amour qui est censé ne rien exclure en disant j'exclus les formes ? J'aime tout sauf les formes. Ça va pas. L'amour, l'unité, c'est évidemment tout, y compris le monde des formes. Voilà pourquoi, si vous voulez, nous devons travailler avec ce monde des formes. C'est pour ça que l'énergie des poissons, vous voyez, ça c'est un symbole, vous avez un poisson, avec la tête en haut qui symbolise l'âme, et puis un poisson, la tête en bas, qui symbolise la forme, et les deux sont attachés. On doit travailler l'un par rapport à l'autre. On ne peut pas se permettre de n'être que dans le monde de l'âme. Parce que, comme on le voit sur mon schéma, l'âme travaille à travers les formes, et qu'il faut aussi bien nourrir la matière que l'esprit. La restitution, c'est dans les deux. Donc on ne peut pas ne pas travailler dans les formes. Mais le problème, c'est pas du tout, si vous voulez, de supprimer les formes, c'est simplement de la juste identification. C'est finalement de savoir que on doit s'identifier à l'âme que nous sommes et travailler à travers les formes. Et non pas s'identifier à la forme, essayant de travailler avec l'âme. Dans le vocabulaire de tous les jours, on n'arrête pas de dire, par exemple, moi, je sais par exemple que j'ai une âme. Je suis, moi, une personnalité, et j'ai une âme par laquelle j'évolue, ou je médite par rapport à mon âme que j'ai, qui part par là. Et donc j'essaie d'établir un contact avec mon âme, sans réaliser combien c'est incongru de dire ça. Parce que ça fait que ça entérine le fait que je suis identifié à la forme. Alors que c'est pas mon âme, je suis l'âme. Ce qu'il faut que nous réalisions, c'est que nous sommes l'âme, et non pas que nous en avons une. Si je dis que j'en ai une, c'est que je m'identifie à la forme. Si je dis que je suis âme, je m'identifie à l'âme. Et c'est toute l'ambiguïté des poissons. C'est qu'on nous demande, à quoi est-ce que vous vous identifiez ? Est-ce que vous êtes une âme et que vous avez une personnalité ? Ou au contraire, est-ce que vous êtes une personnalité, est-ce que vous avez une âme ? Le choix, il est crucial. Le choix, il est très important. On a un mois pour le travailler. Chaque année en poisson, c'est ça qui nous est proposé. Finalement, à quoi est-ce qu'on est identifié ? ben vous verrez que la plupart du temps, ben très facilement, on préfère dire « je suis moi et j'ai une âme ». Et j'essaye de faire un travail par rapport à mon âme. Et puis mon âme, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle décide? Hein, qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Elle m'éclaire un peu mon âme? Sans réaliser que je suis ça. Voilà pourquoi, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tout un travail à faire pour trouver ce que nous sommes. On doit trouver notre véritable identité. Mais pas ce qu'on a. On n'a pas d'âme. On l'est. Et à partir du moment où je m'identifie à cette âme, ben, je ne nie pas du tout la forme. J'ai une forme, j'en prends soin de cette forme. Cette forme, vraiment, eh bien, c'est tout un travail qui va se passer à travers cette forme. Et naturellement, ok, on va faire le travail de progression. Mais voyez, dans le respect de la forme, mais sans m'identifier à cette forme. C'est bien pour ça que dans ce temps des poissons, on a toujours le carême qui commence demain. À quoi ça servait le carême chez les chrétiens? Ben, ça servait exactement à ça. C'est de dire, mettez de côté le monde des formes. Privez-vous un petit peu, là, mentalement, émotionnellement, physiquement, pour vraiment vous identifier à Dieu. C'est à ça que sert le carême. Pour essayer de ressortir au moment de Pâques, beaucoup plus identifié à l'essentiel, et un peu moins identifié au monde des formes qu'on utilise. Donc le but était intelligent, c'était de mettre de côté tout ça. Ben vous voyez, c'est un petit peu ce qui est intéressant donc dans cette période, c'est de réaliser que on n'a pas maintenant à percevoir, si vous voulez, ce monde d'en haut comme étant quelque chose qu'on vise ou qu'on espère. Non, on est ça. Si vous saviez combien au quotidien c'est transformant de savoir qu'on est cette âme et qu'on craint rien, du coup même pas la mort. On va le voir tout à l'heure. Mais quand on s'identifie à l'âme et qu'on on voit toutes les vies qu'on a eues, on est un vrai Highlander. Mais alors, on craint rien. La plupart du temps, si vous voulez, c'est intéressant de voir combien notre quotidien est petit parce qu'on a peur de souffrir et qu'on a peur de la mort. La mort des choses. Pas notre mort, hein, mais la mort des autres. La mort d'une relation. La mort de ceci. La séparation d'avec ça, etc. Toutes les formes de mort. Chaque fois qu'une des choses, des formes nous seraient retirées. On y va tout doucement. On a peur. On est très très peureux par rapport à ça. Le jour où on est l'âme, mais on peut nous retirer tout, mais il n'y a aucun problème. Tant que je suis identifié aux formes, chaque perte est considérée comme quelque chose qui est très très douloureux. À partir du moment où je suis l'âme, il n'y a plus du tout de cette douleur. Mais, encore une fois, je ne recherche pas cette mort parce que je travaille au maximum à amener l'amour dans cette forme et donc dans la matière. Hein, j'insiste bien sur le fait qu'on s'identifie à l'âme, mais on travaille dans la forme. Hein, et non pas séparer à nouveau les deux. C'est simplement, vous voyez, un changement, une bascule d'identification. Alors, on pourrait se dire, bon, donc, moralité, il faut de plus en plus croire en l'âme, il faut de plus en plus croire en la vie. Ben évidemment non. Il ne faut surtout pas croire en l'âme, surtout pas croire en la vie, surtout pas croire en Dieu. Parce que croire, c'est un idéal, c'est encore une forme. C'est une forme. Tant que je crois, c'est quelque chose qui est en dehors de moi, c'est une forme, c'est quelque chose qui émane de mon corps émotionnel. Quand on a tous envie de croire à quelque chose, que ce soit n'importe quoi, quelqu'un, un idéal politique ou religieux, c'est un idéal que l'on a, c'est une forme et qui émane de notre corps émotionnel. Non, faut pas croire, faut l'être, ce qui est tout à fait différent. Faut arrêter de croire, il faut le devenir, ça. Vous voyez, au temps de l'ère des poissons, justement, les deux derniers millénaires, eh bien, l'humanité n'en était qu'à un point où elle ne pouvait que croire. Je mets de côté tous les grands mystiques et tous les êtres extrêmement avancés, bien sûr, qui avaient dépassé ce stade. Je parle d'une manière générale. Donc on ne pouvait que croire qu'il y avait quelque chose d'autre, qu'il y avait un paradis, que croire qu'on pouvait être dans un état autre, qu'on pouvait être une âme, qu'on pouvait rejoindre Dieu, que Dieu pouvait là. Et la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de prier pour que ces grandes qualités puissent descendre, pour qu'elles puissent nous éclairer, pour qu'elles puissent arriver sur Terre. Voilà, c'est ce qu'on faisait dans l'ère des poissons. Maintenant qu'on est dans l'ère du Verseau, c'est fini ça. On est capable de mieux. Tous ces gens qui sont morts et qui ont vécu qui étaient peut-être nous d'ailleurs, eh bien, et qui ont apporté tellement de choses, eh bien, on a progressé. Donc ne reproduisons pas les mêmes choses. Maintenant, il est temps d'arrêter de croire. Il est temps d'être. On va dire, mais être âme, c'est quoi être âme? Oh ben, c'est très simple. Ce qu'on appelle l'âme, parce que c'est un système pratique, si vous voulez, c'est un petit peu une appellation comme ça, on pourrait complètement supprimer ce terme et dire c'est simplement un ensemble de valeurs fondamentales. C'est un ensemble de qualités essentielles. L'âme, si vous voulez, c'est toutes les qualités les plus fondamentales qui sont en rapport avec le tout, avec la globalité. Donc par exemple, l'amour, qui n'est pas du tout affectif. La grande qualité de l'âme, c'est-à-dire la véritable unité telle qu'on peut la percevoir, unité du haut en bas et à tous les niveaux, au niveau horizontal. L'intelligence, la lumière, l'harmonie, la beauté, toutes ces qualités, quand on les perçoit d'une manière globale, eh bien c'est le monde de l'âme. Donc il vous est forcément tous arrivé, ou il vous arrive tous forcément régulièrement, d'être une de ces qualités. J'ai pas dit d'y croire. Mais de l'être. Quelquefois sans trop savoir pourquoi. Ou parce que vous réussissez une méditation, ou parce que vous êtes devant un paysage extraordinaire, ou parce que vous vivez un autre moment, et que d'un seul coup vous vous retrouvez comme ça à vivre un moment d'éternité, un moment où vous vous sentez en union avec tout, que ça ne dure pas forcément longtemps, un moment où comme si tout était clair, vous ne sauriez pas dire quoi, mais c'est clair, ou une harmonie parfaite. Des moments comme ça où vous sentez que vous dépassez votre vécu habituel, vous dépassez ce que vous vivez habituellement, et vous vivez complètement quelque chose qui vous met en connexion avec l'ensemble, avec le tout, avec la globalité. Vous savez pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, mais c'est ça l'âme. Cherchez pas à midi à 14h. Si vous êtes capable de vivre ça, c'est que vous l'êtes. C'est tout. La difficulté, c'est pas de le trouver qu'on l'est, c'est de le faire durer. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui demande du temps. C'est pour ça qu'on pratique la méditation, pour pouvoir tous les jours, tous les matins, rejoindre cet état-là, qui va peut-être durer, je sais pas, au début, un dixième de seconde, puis qui va durer plus tard, jusqu'à ce que ça dure toute la vie, toute la journée. Mais ça prend plusieurs vies pour arriver à faire ça. Ça se passe pas du jour au lendemain. Mais vous voyez, être âme, c'est pas, il faut pas chercher des choses extraordinaires. On a tous expérimenté ça. On sait ce que c'est. Et seulement, au lieu de dire, j'ai eu, moi, forme, j'ai eu un moment d'extase, ou j'ai eu un moment d'unité, ou j'ai eu un moment de joie profonde, extraordinaire. Non, changez, dites, je suis ça. C'est pas, j'ai pas eu un moment de joie, je suis cette joie. J'ai pas eu comme ça un moment d'amour, je suis cet amour, je suis cette unité. Et c'est mon moi profond, c'est mon essentiel, c'est ce que je suis, c'est mon identité. Et vous voyez, progressivement, le but, c'est de s'identifier à cela. Alors, à ce moment-là, ça change absolument tout. Mais ça change tout. Quand vous êtes dans cette qualité, quand vous êtes dans cette affirmation d'essentiel, quand vous arrivez à maintenir ce moment d'unité, d'amour, mais à ce moment-là, vous n'avez qu'une envie, c'est que tout ça, ça envahisse partout. Notre vie, notre existence, que ces qualités soient partout sur Terre, que ces qualités soient partagées par tellement de monde, que ce soit quelque chose qui se manifeste. Du coup, ça amène à créer de nouvelles formes. De nouvelles formes qui sont à l'image de ce qu'on est en train de vivre. Donc ça amène forcément et très naturellement la mort des anciennes. Toutes vos anciennes façons de penser, vos anciennes façons de vivre, vos anciennes relations, d'un seul coup, quand vous êtes dans ce moment-là, vous apparaissent tellement petites, mesquines, ridicules, sans aucun sens, qu'à ce moment-là précis, en restant là, vous pouvez y mourir avec une facilité extraordinaire, parce que ce qui vous intéresse maintenant, ce serait de vivre comme ça, d'avoir des relations comme ça, de penser comme ça, voilà, d'être au monde comme ça. Et donc là, vous pratiquez la mort, mais très très facilement. Et vous voyez, c'est ça le but. C'est que chaque fois qu'on est cette âme, chaque fois qu'on est cet essentiel, on cherche à construire des formes de plus en plus transparentes. Des formes de plus en plus translucides, qui laissent de plus en plus passer la lumière qu'il y a en elles. C'est ça, construire un nouveau monde. C'est construire, c'est non pas abandonner les formes. Non, c'est faire que les formes elles-mêmes aient les qualités de l'âme. Pour pouvoir les restituer à la matière, pour que tout progresse. C'est ça notre grand travail d'union. Être âme dans la forme, pour qu'après tout puisse en profiter. C'est pour ça que vous voyez que quand on est dans ces moments-là, c'est des moments magiques. Le problème, c'est qu'on les perd. Et que toutes ces formes qui nous paraissaient petites, mesquines, etc., dès qu'on descend, non, elles sont bien ces formes après tout. Faute de mieux, on va continuer de fonctionner avec ça. Mais vous voyez, dès qu'on remonte d'un cran, mais non, ça va plus. Vous voyez, quand on est chacun dans notre histoire et qu'on regarde nos formes d'un point de vue formel, on a l'impression que tout va bien, quoi, et puis que ça dure, que ça s'améliore un peu quand même, mais un peu comme mon conifère. Hein. Faut que ça s'améliore, mais sans qu'on voit la mort, le changement, à peu près toujours pareil, comme ça. Mais dès qu'on remonte dans l'être essentiel que nous sommes, et qu'on s'identifie à ça, qu'on ne dit pas « je suis en train de vivre un moment extraordinaire », mais « je suis ça », je suis en train de vivre ce que je suis. Ah mais alors là, on est prêt à tout changer. Et là, justement, la mort de toutes ces formes, de tous ces... Tout ça nous apparaît tellement comme une évidence, comme un processus tout à fait naturel, sans aucun problème. Ben, je vous propose de vivre ça dans la méditation. Nous allons commencer pendant que vous respirez à hauteur du centre frontal, justement par voir ce monde de formes auquel on est souvent identifié. Et combien souvent on souhaite une petite évolution, mais en gros que ça reste un peu comme ça, au niveau physique, émotionnel, mental. On souhaite une amélioration, mais pas de grands changements, sauf si bien sûr ça va mal dans notre vie. Mais quand ça va bien, on trouve que c'est bien. On a souvent même peur que des choses s'arrêtent. En considérant certaines relations, métiers ou autres, on pourrait même penser que ce serait la catastrophe si ça s'arrêtait. À présent, nous respirons plus vers le sommet de la tête. Et nous allons rejoindre l'être que nous sommes véritablement. Et ce soir, je vous invite à chercher à percevoir la qualité qui vous parle le plus, la plus grande qualité que vous devinez être la vôtre. Mais c'est une qualité globale, universelle, qui dépasse naturellement ce que nous sommes. Cette qualité, essayez de la vivre à son maximum, dans sa plus grande globalité, dans sa plus grande lumière. Et quand vous arrivez à ce maximum, dites-vous que c'est ce que vous êtes vraiment. Vous atteignez votre vraie identité. Alors, en cherchant à maintenir cet état d'être, percevez à présent votre quotidien. Percevez quelles pourraient être vos pensées, vos relations, vos actes, s'ils étaient en permanence colorés par cet état d'être, si c'était vous, cette qualité, agissant à travers toutes ces formes, qu'est-ce que ça donnerait dans le quotidien? Quelle nouvelle forme ça donnerait naissance? Et par conséquent, quelle forme disparaîtrait d'elle-même? Quelle forme n'aurait plus lieu d'être? Tant mentale qu'affective, relationnelle ou physique? Vous expirez à nouveau vers le centre frontal. Vous relâchez bien. Ok. Bon, voilà un style de méditation, vous voyez, qu'on peut faire pendant cette énergie poisson, s'identifier à la qualité que l'on est véritablement, et de voir à partir de là comment le monde peut nous apparaître différent, comment les formes peuvent nous apparaître réellement, totalement régénérées, revivifiées. Et du coup, quelles sont celles qui tomberaient un peu dans l'oubli et qui mourraient d'elles-mêmes, tout simplement parce qu'elles ne correspondraient plus à ce que vous êtes, à ce que vous vivez. Vous voyez, ce qu'on peut voir à travers ça, c'est que la mort est finalement provoquée par la vie. Vous voyez ce qu'on vient de vivre là maintenant? C'est parce qu'on vit quelque chose d'autre, c'est parce qu'on vit un autre état, c'est parce que finalement on se retrouve dans une autre identité que des formes ne conviennent plus. Et qu'elle tombe finalement d'elle-même. Il n'y a pas à faire un effort pour combattre quoi que ce soit. On a quelquefois l'impression que la mort s'obtient justement avec une certaine violence, comme si Pluton ou comme si autre chose décidait, voilà, ça c'est fini, top, la fin, comme si l'âme nous disait, voilà, terminé, hop, on dégage. Pas du tout. Mais alors pas du tout comme ça. La mort s'obtient toujours finalement par une affirmation de la vie. À un moment donné, la vie s'affirme telle qu'elle est, et la forme, pouf, elle disjoncte. Ça va un petit peu comme si d'un seul coup, eh bien, à chaque fois qu'on vit sous une autre tension, les formes meurent. Ça nous est arrivé des centaines et des centaines de fois depuis qu'on est gamin. Depuis qu'on est gamin, on a changé sans arrêt d'état de conscience. Il y a des tas de choses qu'on aimait puis qu'on n'aimait plus, des tas de relations qu'on avait puis qu'on n'avait plus, des tas de choses qu'on avait idées puis qu'on perd. Et donc tout simplement, parce qu'à un moment donné, on aime quelque chose d'autre, on préfère ça, on comprend quelque chose de mieux, on est beaucoup plus dans la vie. Et du coup, oh, les choses qu'il y avait avant, elles tombent d'elles-mêmes. On s'en rend même pas compte. Souvent, c'est quand on se retourne quelque temps après, on dit, tiens, oui, c'est vrai que j'avais ce projet-là, ou il y a quelques années, j'avais ces idées-là. Oh, ça a disparu. Il n'y a jamais à combattre quoi que ce soit. La mort ne s'obtient pas, vous voyez, en combattant ou en décidant qu'il faut supprimer telle ou telle forme. Simplement en se mettant sur autre chose. Vous savez, c'est comme le lâcher-prise. Hein, je vous ai souvent parlé de ce truc-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « faut lâcher prise ». Ouais, c'est ça. Faut lâcher prise à condition d'avoir la prise suivante. Sinon, hein, comme je dis, en montagne, vous êtes coincé, C'est facile, lâche prise. Oui, c'est ça, oui. Bon. Donc, c'est quand on a la prise suivante, effectivement, on lâche prise. Bah, pour nous, c'est pareil. Dans la mesure où, d'un seul coup, on perçoit une autre vie, un autre état de conscience, un autre état d'âme, et que ça, c'est tellement ça, bah, évidemment, on lâche tout de suite les anciennes. Voilà pourquoi, vous voyez, contrairement à ce qu'on croit, la mort est douce. La mort est toujours d'une douceur extraordinaire. D'après le témoignage des grands maîtres de sagesse qui sont passés par là et qui nous le disent, eh bien, au moment où on meurt, on ne s'aperçoit de rien. Ils disent, c'est juste comme un tout petit choc électrique, mais beaucoup moins que si vous prenez une petite jute de 220 dans la prise. Juste une petite crispation comme ça, c'est tout. Et le temps d'après, eh bien, c'est exactement pareil. Nous, on s'attend à ce que la mort, vous voyez, une espèce de chamboulement, un déchirement, un biu, un truc comme ça, non, comme on pourrait faire des effets spéciaux à la télévision. Non, rien du tout. Ce qui est extraordinaire dans la mort, c'est que l'instant d'après ressemble tellement furieusement à l'instant d'avant qu'il faut se pincer et pour s'apercevoir qu'on est mort. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez certainement tous vu le sixième sens. Ce film où justement quelqu'un continue ses activités parce qu'il ne s'aperçoit pas qu'il est mort. Bon, si on ne connaît pas, on dit mais c'est impossible. Ne croyez pas ça. C'est très très souvent une règle générale. C'est que la plupart des gens ne s'aperçoivent pas qu'ils sont morts. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que notre conscience demeure strictement la même. Qu'est-ce qu'on perd au moment où on meurt ? Simplement le corps physique. Le corps éthérique momentanément est encore présent. Le corps astral est encore là. Le corps mental est là. C'est-à-dire qu'on a les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes émotions, les mêmes affectifs, les mêmes relations, les mêmes peines, les mêmes joies, les mêmes pensées. On a tout pareil en conscience que l'instant d'avant. Ça ne meurt pas. Et c'est pour ça qu'on est persuadé qu'on n'est pas mort. Et là, on s'aperçoit d'une chose importante. Parce que quand même, on assiste à tout. Donc on voit les personnes à l'hôpital, on l'a perdu. Heure du décès. Donc, comment ça on l'a perdu? Qui ça? Mais je suis là, moi, là, à côté. Non, mais c'est, je suis là. Bon, je vais me rallonger sur mon corps pour qu'il se rende compte que c'est un mauvais rêve. Donc là, il s'aperçoit qu'il ne tient plus. Il a beau se rasseoir dans son corps, de toute façon, il revient. Bon. Donc, mais il ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit, la première chose? C'est à quel point, en réalité, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas du tout identifié à notre corps physique, on est identifié à notre conscience. Comme notre conscience est demeurée la même, bah pour certains, même c'est très paumant, ils ont l'impression qu'ils vivent un cauchemar, mais qu'ils ne peuvent pas être morts, puisqu'ils raisonnent, ils sentent tout pareil. C'est dire à quel point, en vrai, on n'est pas identifié tant que ça au corps physique, puisque la perte du corps physique ne suffit pas à nous faire croire qu'on est mort. Vous voyez pourquoi la mort se passe complètement en douceur et en plusieurs étapes, suivant le niveau d'évolution. Si on a vécu très fortement par rapport à l'émotionnel sur Terre, alors on va continuer de vivre nos envies, nos désirs et nos émotions de l'autre côté. Apparemment sans corps, mais comme la matière astrale se conforme exactement à nos désirs, on a l'impression qu'on vit toujours dans le milieu tel qu'on l'a toujours vécu. Et donc, comme dans un film dans le sixième sens, c'est parfaitement crédible. Des tas de gens continuent souvent leur activité pendant très longtemps sans réaliser qu'ils sont morts. Alors, il y a bien des copains qui sont là, qui leur disent hey, « Hé, Coco, t'es mort là, pas la peine d'arrêter. » Mais ils ne le croient pas, puisqu'ils sont toujours la même chose. Donc il y a bien des choses un peu bizarres, il y a bien des trucs, mais ils ont bien l'impression qu'ils passent un peu à travers les portes, mais bon, c'est pas l'air trop gênant. Et ils continuent comme ça leurs activités, comme si de rien n'était. Et ça peut durer longtemps, jusqu'au moment où ils vont se rendre compte que c'est un petit peu une illusion quand même, puis que c'est pas ça, puis que peut-être passer à autre chose, parce que l'âme appelle de plus en plus. Alors ils mourront à leur corps émotionnel, qui à son tour sera restitué au niveau du monde émotionnel. Mais ça peut prendre, selon les cas, pour les gens qui ont déjà fait un gros travail émotionnel, ça ne leur prendra que, dans le meilleur des cas, que quelques heures ou quelques jours. Mais pour la plupart des gens, ça peut prendre des dizaines et des dizaines d'années avant de vivre cette seconde mort. Puis après, si jamais ils en ont eu un dans leur vivante, ils devront larguer le plan mental. Là aussi, ça peut prendre des années. Avant que l'âme, n'ayant restitué tous ses corps, le physique, l'émotionnel, le mental, se retrouve en tant qu'être de lumière à préparer sa prochaine incarnation. et à faire tout un travail. En fait, la plupart du temps, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que de l'autre côté, on continue complètement de travailler ce qu'on a fait dans cette vie-là. Ça veut dire que si vous avez aidé les gens dans cette vie-là, bah vous continuez de les aider de l'autre côté, en tant qu'ange gardien, en tant que personne amenant des conseils, etc. On continue exactement le même type d'activité, parce que la conscience reste la même. Vous voyez, notre facteur de stabilité, c'est la conscience, c'est l'âme, c'est ce que nous sommes profondément. Voilà pourquoi si sur cette terre, on s'identifie déjà à l'âme, eh bien, on économise des années d'illusions de l'autre côté, parce qu'on va plus directement à ce que nous sommes réellement, et à continuer à aider les autres comme nous pouvions le faire ici. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la mort est tellement douce que souvent on s'en aperçoit pas. Et donc, on continue de faire des tas de choses. Comme dans le sixième sens. Le pire, ça je vous parle un petit peu comme ça des gens qui sont morts, mais si on parle des morts de forme, comme tout à l'heure on parlait d'un mort d'un couple, d'un boulot, des choses qui sont plus intéressantes, mais il y en a plein qui continuent alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ah mais il y en a plein. Il y a plein par exemple de croyances, d'idéologies qui sont mortes depuis très longtemps. Mais comme ils ne savent pas qu'ils sont morts, ben, les gens continuent d'y croire et continuent de faire comme si c'était pas mort. Mais c'est mort. Regardez par exemple le communisme en URSS. Eh bien, le communisme était mort en URSS bien avant l'histoire du mur de Berlin. Ça faisait bien 20, 25 ans, 30 ans que le communisme était mort. Mais comme la mort est douce, ils étaient partis sur autre chose, sur un autre état de conscience. Mais comme officiellement c'était toujours là, ben, c'était toujours là, et tout le monde faisait comme si le communisme était toujours vivant et quelque chose qui fonctionnait. Et c'est pour ça que le jour où le mur de Berlin s'est ouvert et l'URSS s'est effondré, mais ça se passe tout seul. Oh, mais c'était mort depuis longtemps. Et d'un seul coup, c'est comme si on ouvrait les yeux, comme on dit. Mais en fait, ça se passe. Bah oui, c'est pas d'aujourd'hui la mort. Il y a belle lurette que c'est mort. Combien de couples sont encore ensemble alors que leur couple est mort depuis des années? Mais ils le savent pas. Ils sont pas rendus compte. C'est tellement doux comme mort. Ils se sont même pas rendus compte quand leur couple est mort. Et eux, ils continuent d'être en couple et faire ensemble. Ouais, on est en couple et tout. Mais non, ils vivent chacun de leur vie. Et en tant qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus ça. Nous sommes entourés de zombies. Nous sommes entourés de morts vivants. De gens qui continuent des activités, qui continuent un métier, qui continuent des relations, qui continuent des croyances, qui continuent des pensées, qui continuent des tas de choses, des couples. Alors que c'est mort depuis longtemps. Mais ça fait rien, ils s'en sont pas aperçus. Parce que justement, la mort est douce. Au moment où la vie se sépare d'une forme, ça se passe tout doucement, tellement doucement. Si on avait un choc, on dirait « Ah, c'est mort !» Ah ben, on s'en rendrait compte, on dirait « Bon chéri, il faut faire quelque chose, hein. Notre couple, apparemment notre couple vient de rendre l'âme. Mais... » Mais non, on s'en rend pas compte. Et combien de temps ils vont mettre pour s'en rendre compte? Ben des fois pas du tout. Voilà. Donc ils meurent et puis ils se sont jamais rendus compte qu'effectivement, bah, même certaines personnes qui sont plus du tout branchées sur la vie et sur l'âme et qui continuent de se déplacer comme ça, en vrai ils sont morts. Non. C'est vrai qu'il y avait un humoriste, j'ai jamais trouvé lequel, mais j'aimerais bien trouver, qui disait sur la tombe de la plupart de nos contemporains, on pourrait mettre mort à 40 ans, enterré à 80. Absolument. Mais le nombre de choses qu'ils ont comme ça, c'est extraordinaire. Donc, pour ça, vous voyez, pour nous, c'est extrêmement important, vous voyez, dans la vie, repérer ce qui est vivant, repérer ce qui est mort. D'autant plus que, quand c'est mort, on essaye à tout prix de redonner de la vie, de ressusciter. Alors là, c'est tous les passéistes, tous les nostalgiques, tous les amoureux des vieux bâtiments, des vieilles pierres, des vieux machins, des vieux trucs. C'est fini, c'est passé, c'est mort. Tout ce qui a été valable et vivant à une certaine époque, ça ne l'est plus. C'est autre chose, c'est de nouvelles vibrations. Il y a une chose qui est insupportable, et je vis ça dans mon petit village de Savoie, c'est qu'au nom d'une espèce d'architecture du passé, on interdit des constructions de verre, on interdit des constructions extraordinaires qui laissent passer la lumière. Voilà. Non, faut respecter le machin, etc. Mais quelle horreur! On enterre vivant les gens. L'architecture, c'est quelque chose qui est justement la beauté d'une époque, la beauté d'un état de conscience, la beauté d'une âme. Mais vous voyez, conserver ses formes comme ça. À une époque, on vivait pas dans la lumière. On vivait dans l'obscurité, on se protégeait. Ben, le froid aussi. Maintenant, on peut faire des choses extraordinaires. Des constructions en plus avec qui consomment zéro énergie. Avec des vérandas, avec du verre partout, avec des choses fabuleuses. Ah mais non, c'est pas dans le style du village. Mais c'est des coups de pied au cul qui se perdent là. Vraiment. C'est scandaleux. Mais voilà, c'est redonner du pouvoir aux vieilles formes. Alors vous voyez, vous avez des gens, donc voilà, donc on va ressusciter telle vieille musique, tel vieux peint tableau, tel vieux machin, tel vieux monument, etc. Mais foutez-moi ça en l'air. Bon, là, je suis très provocateur. Bon. Mais, vous voyez, simplement, de temps en temps, faites-vous une vieille musique, une vieille pyramide, si ça vous chante. Mais, pas pendant le carême. Et juste une petite piqûre comme ça de temps en temps. Hein. Bon. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, là encore, dans tous ces modèles-là, on est prisonnier du passé. Comme si l'amoncellement de formes du passé nous empêche de créer du nouveau. Donc on est prisonnier des vieilles peintures, des anciennes musiques, des vieux instruments de musique, des vieilles architectures, des vieux machins, etc. Mais libérez-nous le chantier! Maintenant, il faut qu'on puisse arriver avec une nouvelle état de conscience, et bien créer du nouveau. On remet pas ça en question, c'est historique, mais que ça soit dans les musées, puis que ça nous embête pas. Mais vous voyez, ce sont des mauvaises vibrations, parce que ça ne nous correspond plus, et qu'on a besoin justement d'autre chose. Donc on ne doit jamais restreindre toute l'histoire justement qui peut se dérouler maintenant au nom des vieilles choses. Non, surtout pas. Vous voyez, la mort fait partie du processus d'avancement. Et là encore, si on se rendait compte, mais vraiment ce que je vous dis, c'est le dixième de la perception de l'âme, ce que l'âme ferait des musées. De toutes ces vieilles musiques, ces vieux machins, etc., j'ose même pas le dire. Parce qu'effectivement, on va sans arrêt de l'avant. L'âme ne s'occupe pas du monde des formes. Ces formes, elles sont périssables. Nous, on veut les garder. On fait des musées pour tout, y compris pour les porte-clés. Passionnant. Donc vous voyez, on veut garder trace, garder mémoire, etc. Le devoir de mémoire est anti-évolutif. On n'a pas à se souvenir, on a à comprendre, on a à aimer, on a à réaliser qu'on est âme et qu'on va tous de l'avant par rapport à ça. Et qu'on a tous à réinventer de nouvelles idées, de nouveaux idéaux, et que tout est à réinventer en permanence. Toutes les anciennes civilisations sont mortes. Et tant mieux. Elles nous ont légué des trésors extraordinaires, non pas sous forme de pyramides, de temples, d'églises, etc., mais sous forme justement d'une matière de plus en plus subtile. Les corps qui sont les nôtres maintenant sont bien plus subtils que ceux des Grecs. Mais grâce à eux, grâce à toutes ces milliers d'années où il y a eu ce travail de mort fabuleux qui a restitué à la matière et qui fait qu'à chaque fois, eh bien, nous aussi, nous allons restituer une matière qu'on rend nettement plus propre qu'on l'a trouvée en arrivant. C'est ça qui est fabuleux, c'est que chaque fois qu'on meurt, on rend quelque chose avec un plus. Si bien que tous ceux qui suivent bénéficient de ce plus. Et c'est comme ça que toute l'évolution se fait. Donc n'ayons pas de regrets, toutes ces civilisations, les trésors qu'ils nous ont légués, ben, ce n'est pas forcément des monuments, des choses comme ça, c'est toute cette matière. C'est ce qui fait qu'on bâtit justement un progrès sur la mort de tout ce qui nous précède. Et l'âme, vous voyez, sans arrêt, amène à aller plus vite dans cette histoire de progrès. Voilà pourquoi, vous voyez, si on pouvait avoir une meilleure identification à l'âme, on aurait une position vis-à-vis de la mort totalement différente. On arrêterait de la craindre, ce serait vraiment quelque chose vers lequel on irait pleinement. Là aussi, dans des écrits ésotériques, il est dit qu'en fait, plus tard, la mort fera tellement partie des choses, mais intégrée par l'humain, que c'est l'humain qui décidera lui-même de l'heure, du moment, parce qu'il dira, ça y est, mission remplie à côté, et donc le Tibétain dit carrément, il décidera avec ses amis éventuellement de l'heure où il décide de partir, ça vous arrange, comme ça tout le monde peut être là, bon, et bien à côté on se fait une petite fête, un petit adieu, un petit pot d'adieu, puis on me tire. Mais exactement comme ça, ça paraît dément maintenant de dire ça, vous voyez, tellement on dit, mais non, surtout pas, mais si vous voyez, quand on aura justement cette continuité de conscience, ça paraîtra tellement évident. Tout simplement parce que, vous voyez, on arrêtera de s'identifier à la forme. Pour nous, la continuité de la vie sera devenue tellement évidente que la mort ne représentera rien du tout que simplement une cessation très momentanée d'expérience. C'est tout. Et pour nous, ce ne sera pas une croyance, ce sera un vécu. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, les croyances ne changent pas le monde. Regardez, tous les gens qui croient en Dieu, hein, ça me frappait au moment de la mort de Jean-Paul II. Tous ces gens qui croient en Dieu et qui sont là à prier, pourvu qu'il ne meure pas, pourvu qu'il ne meure pas, pourvu qu'il ne meure pas. Hallucinant, non? Attends, il va enfin se reposer, il va aller à Dieu, etc. Non, non, mon Dieu, sauvez-le, sauvez-le. Mais non, laissez-le partir. C'est incroyable. Vous voyez, donc, ça sert à quoi de croire? On en parlait nous-mêmes quelques jours, enfin, il y a quelques conférences, quand je vous disais, le nombre de gens qui croient à la réincarnation, mais qui continuent à vivre comme si cette vie était la seule, tenant absolument à réussir cette vie-là particulièrement, comme si j'en avais qu'une. Mais attends, mais non. Donc, croire, ça ne change pas. Ce qui change, c'est être. C'est pour ça que vous voyez, donc, tout le travail de ce mois-ci consiste à vraiment être identifié à l'âme, être identifié à l'essentiel, être identifié à la qualité ou aux qualités que nous pouvons percevoir comme étant véritablement bénéfiques pour l'ensemble. C'est ça le changement. C'est ça pouvoir, ce qu'on appelle sauver le monde. Le poisson est un signe de sauveur du monde. C'est ça la guérison planétaire. Voilà pourquoi, vous voyez, l'amour s'obtient vraiment progressivement par la mort. La mort, c'est ce qui supprime tout ce qui gêne, tout ce qui sépare, tout ce qui finit par empêcher la grande unité. Donc voilà pourquoi le travail de la mort à travers les formes, c'est d'arriver à réunir esprit et matière, donc c'est vraiment bien au service de l'amour. Alors, en conclusion, un petit mot pour 75% des gens ici. C'est une statistique moyenne. Étant donné que je suis une âme rayon 2, amour sagesse, je fais donc un enseignement rayon 2. Bon. Donc, si vous êtes vous-même âme rayon 2, vous êtes attiré par ce style d'enseignement, vous dites, tiens, comment il traite les choses, ça me parle. Forcément. Bien. Et donc, si vous êtes âme rayon 2, en général, d'après tous les gens que je connais, je sais qu'il y en a à peu près, grosso modo, on va dire 70-75%, vous êtes particulièrement touché par le monde des formes. En effet, la grande qualité d'amour, rayon 2, au sein de l'âme, c'est cette qualité qui crée particulièrement les formes. Et quand on est âme rayon 2, on chérit particulièrement les formes. Du coup, on a tendance à faire des boulots où on s'occupe de formes. Infirmière, médecin, éducateur, rééducateur, professeur, instit, thérapeute, etc. Enfin, on fait toutes sortes de choses comme ça. Ou en tout cas, on aime bien s'occuper des autres. On fait partie d'associations, du bénévolat, etc. Donc, cherchant à sauver et à aider justement ces formes. Quelquefois, on se trompe justement de combat. C'est qu'en voulant soigner, éduquer, rééduquer, retransformer, etc., on s'adresse aux formes. Or, nous ne sommes pas là pour sauver les formes, nous sommes là pour sauver l'âme. Nous savons être au service de l'âme. Par conséquent, nous n'avons pas à intervenir pour sauver la vie de quelqu'un, alors que l'âme a décidé le contraire. On n'a pas à intervenir dans un sens qui, effectivement, nous servirait plus, alors qu'éventuellement, il y a autre chose qui est en place. Donc, n'oublions pas que quand nous avons des métiers d'aide aux autres, nous devons nous-mêmes être au service de l'essentiel, cherchant à s'exprimer à travers la personne. Et tant pis si la personne est plus mal. C'est l'âme qui compte. Alors que regardez, bon nombre d'âmes rayon 2 font exactement l'inverse. Ils sauvent la forme, ils bichonnent la forme, ils arrangent la forme. Tu souffres pas comme ça, ça va bien comme ça, et puis comme ça il n'y a plus de problème. Attends, psychologiquement, on va essayer d'arranger ça. Et puis comme ça tout va bien, là, là, voilà, ça va. Et pendant ce temps-là, l'âme... Justement que j'avais créé un problème pour essayer de faire avancer, je mettais un coup de pied occulte de manière à ce que ça puisse réellement faire. Et puis non, là, il m'arrange tout, comme ça, tout va bien, il n'y a plus de problème, voilà, tout. Quelle horreur! Donc, avertissement au rayon 2, nous sommes là pour aider l'âme à s'inscrire donc à travers les formes, à travers des épreuves, à travers des problèmes. Nous sommes là pour aider la personne à résoudre ses problèmes en tant qu'âme. Et pas les résoudre à sa place pour que toutes les formes s'aillent bien. Merci docteur, je vais mieux, c'est sympa. Non. Voilà de quoi méditer pendant le mois. Eh bien, je vous souhaite une bonne mort généralisée.